Merci de vous joindre à nous. Vous êtes sur Radio Orient. Il est midi, l'essentiel de l'actualité avec vous, Nadia Bencher. À la une de cette édition, la réouverture ce lundi du point de passage de Rafah au compte-gouttes. Une cinquantaine de personnes seulement pourront transiter chaque jour sous contrôle drastique. En France, le budget 2026 prêt à être adopté définitivement ce lundi. Ce sera après l'examen de deux motions de censure à l'Assemblée. Le dossier du jour consacré à l'ouverture sous condition du point de passage de Rafah à Israël qui met la pression sur les ONG. MSF est menacé d'interdiction dès la fin du mois. Et puis l'Irak qui annonce l'ouverture d'enquête à propos de plusieurs centaines de détenus de Daesh. Bonjour au Proche-Orient. Le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte rouvre ce lundi dans les deux sens, mais au compte-gouttes et sous conditions très strictes après l'arrivée de la mission européenne EBAM. Selon des médias égyptiens et israéliens, 50 personnes par jour pourraient transiter dans chaque sens au début et la frontière n'ouvrirait que quelques heures par jour. Pour l'instant, pas d'entrée d'aide internationale par Rafah. L'aide venant d'Égypte continue de passer par Kerem Shalom côté israélien. Israël impose une autorisation sécuritaire préalable et des restrictions sur les bagages. Le Hamas prévient que toute obstruction serait une violation du cessez-le-feu. Israël annonce que Médecins sans frontières devra quitter Gaza d'ici le 28 février après le refus de l'ONG de fournir la liste de ses employés palestiniens. MSF affirme manquer de garanties sur la sécurité des équipes et la protection des données et dénonce un prétexte pour bloquer l'aide. En Syrie, la ville de Hasakeh dans le nord-est du pays sous couvre-feu ce lundi. Il a été décrété par les forces kurdes avant le déploiement attendu des forces gouvernementales. La mise en œuvre de l'accord conclu entre Damas et les FDS débute aujourd'hui avec une force intérieure limitée à Hasakeh et Kamishli, sans entrée de forces militaires dans les villes kurdes. En Iran, la télévision d'État annonce l'arrestation de 4 ressortissants étrangers pour participation aux émeutes de janvier, sans préciser leur nationalité. Ils ont été interpellés lors d'un raid dans la province de Téhéran. Des grenades assourdissantes artisanales auraient été retrouvées dans le sac de l'un d'eux. Téhéran accuse Israël et les États-Unis d'être impliqués dans ces troubles qui ont fait des milliers de morts, selon les autorités. L'Iran, qui assure par ailleurs n'avoir reçu aucun ultimatum des États-Unis sur le nucléaire et affirme ne jamais accepter ce type de pression. Donald Trump avait déclaré vendredi avoir fixé un délai à l'Iran sans le préciser et assuré que Téhéran voulait conclure un accord. En Algérie, Ségolène Royal, présidente de l'association France-Algérie, a joué ces derniers jours un rôle de médiation dans un climat diplomatique particulièrement tendu entre Paris et Alger. L'ancienne ministre socialiste affirme avoir obtenu le transfert du journaliste français Christophe Glaise de la prison de Tizi Ouzou vers Alger à une centaine de kilomètres. Un déplacement présenté comme un geste humanitaire censé faciliter les visites de sa famille et améliorer son suivi. En France, le budget 2026 doit être adopté définitivement ce lundi après l'examen de deux motions de censure à l'Assemblée. Le texte est passé au 49-3 et devrait survivre grâce au Parti socialiste qui ne voterait pas la censure, contrairement au Rassemblement national et à la gauche hors PS. Capgemini, le géant français de l'informatique, annonce la mise en vente de sa filiale Capgemini Government Solutions après la polémique sur des contrats liés à la police américaine de l'immigration, l'ICE. Le groupe dit ne pas pouvoir exercer un contrôle suffisant en raison de contraintes liées aux activités classifiées et lance la cession immédiatement. L'ICE s'est invité au Grammy Awards cette nuit. Le rappeur Bad Bunny a décroché l'album de l'année avec un disque en espagnol, une première, et repart avec 3 trophées. Sur scène, il a transformé la cérémonie en tribune contre la politique migratoire de Donald Trump visant l'ICE. ICE out, a-t-il scandé, puis nous sommes humains et nous sommes américains, a-t-il dit. L'artiste a appelé à ne pas se laisser contaminer par la haine. C'est la fin de ce point de l'actualité. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. On commence par Gaza. Le passage de Rafah à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza a rouvert ce lundi. Une réouverture très encadrée. Seules quelques dizaines de Palestiniens sont autorisés à franchir la frontière chaque jour. Dans le même temps, Médecins sans frontières dénonce la décision israélienne de lui interdire d'opérer dans l'enclave, y voyant un prétexte pour entraver l'acheminement de l'aide humanitaire. Alors, que va changer cette réouverture de Rafah dans un territoire toujours au bord de la rupture? Pour Rami Abou Jamous, grand reporter à Gaza, c'est un peu d'espoir, mais même si la situation n'est pas bien claire.
On peut dire que c'est une petite fenêtre d'espoir, mais c'est pas du tout à l'attente de la population palestinienne, parce que pour le moment, déjà, rien n'est clair au niveau de l'ouverture. On a entendu parler juste du côté israélien et des médias israéliens. Il n'y a pas de truc officiel ou quelque chose d'officiel de la part d'Égyptiens, ni de Obama, la Commission européenne, ni des Palestiniens, l'autorité palestinienne. Donc, tout ce qu'on a entendu, c'est par les médias, c'est qu'il y aura juste 50 patients ou blessés qui vont être évacués par jour, avec juste 2 accompagnants. Et pour l'entrée, il va y avoir juste 50 personnes qui peuvent rentrer de l'Égypte vers Gaza, avec une liste qui doit être envoyée au service de renseignement israélien pour justifier ou bien pour donner l'accord sur les personnes qui vont entrer, avec des points de fouille, un point de checkpoint qui s'appelle un nouveau checkpoint qu'ils ont fait à côté de Rafah. Et donc, malheureusement, c'est pas du tout à l'attente des Palestiniens, surtout si on veut parler juste des personnes entre patients et blessés qui doivent être évacuées pour se faire opérer ou bien soigner à l'étranger. On parle plus de 20 000 personnes avec ce rythme-là de 50 personnes par jour. Donc, il faut des années pour que ces blessés, ces patients puissent partir pour se faire soigner à l'étranger. Et bien sûr, il y a d'autres personnes qui veulent partir. Il y a des étudiants qui veulent continuer leurs études à l'étranger. Il y a des gens qui veulent voir leur famille à l'étranger. Il y a des gens qui veulent quitter Gaza parce que pour eux, Gaza, ça devient un enfer et qu'ils ne peuvent plus vivre à Gaza. Donc malheureusement, avec cette ouverture-là, avec ces critères et ces conditions, ça va être vraiment impossible pour que la vie s'améliore pour les Palestiniens ou bien surtout pour les blessés et les patients.
L'état des infrastructures médicales, qu'en est-il aujourd'hui justement dans la bande de Gaza?
Oui, malheureusement, on est toujours dans la pénurie. Il y a un manque. Le système de santé est anéanti. Tout ce qui est système de santé, malheureusement, public est anéanti. Il n'y a que 2 hôpitaux publics qui fonctionnent d'une façon partielle sur toute la bande de Gaza. Et quand je dis toute la bande de Gaza, je parle juste de 40% de la surface de Gaza, parce que les 60%, c'est occupé par l'armée d'occupation israélienne. Et donc, il y a juste 2 hôpitaux d'une façon partielle. Il n'y a pas de matériel médical suffisant. Il n'y a pas de médicaments aussi. Chaque jour, il y a des gens qui perdent leur vie à cause du manque de médicaments et à cause du manque de matériel médical. Et surtout que là, le service public est anéanti. Il y a une alternative avec les ONG internationales, et même maintenant avec les ONG internationales, ils sont en train d'être menacés d'arrêter de travailler et d'arrêter leur travail à Gaza et même en Cisjordanie.
Rami Abou Jamous, grand reporter à Gaza, auteur de Gaza Vie, l'histoire d'un père et son fils aux éditions Stock, au micro de François-Xavier de Calonne. Il est l'invité de Grand Angle ce lundi après le flash de 18h. Irak à présent, l'Irak qui annonce l'ouverture d'enquête à propos de plus de 1300 détenus de l'organisation Daesh, des personnes récemment transférées depuis la Syrie dans une opération américaine. Les procédures sont menées par plusieurs juges spécialisés sous la supervision du Conseil supérieur de la magistrature, François-Xavier de Calonne.
Oui, les procédures d'enquête ont commencé concernant 1387 membres de l'organisation terroriste Daesh récemment transférés du territoire syrien. Voilà les mots dans un communiqué du bureau en charge des médias du pouvoir judiciaire irakien. Ces détenus font partie des 7000 membres de l'organisation auparavant détenus par des combattants kurdes syriens, des détenus que l'armée américaine a déclaré vouloir transférer en Irak, et cela après la reprise par les forces gouvernementales syriennes de territoires détenus par les Kurdes. Or, parmi eux figurent des Syriens, des Irakiens, mais aussi des Européens et des personnes d'autres nationalités. Alors, petit rappel historique, Nadia, en 2014, Daesh s'est emparé de vastes territoires en Syrie et en Irak. Ses membres avaient commis des massacres et réduit des femmes et des filles en esclavage sexuel. Appuyé par une coalition menée par les États-Unis, l'Irak a proclamé la défaite du groupe en 2017. En Syrie, les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, ont défait Daesh 2 ans plus tard. Les FDS ont ensuite incarcéré des milliers de djihadistes présumés et placé des dizaines de milliers de leurs proches dans des camps. Un tournant, le mois dernier, les États-Unis ont déclaré que la mission initiale des forces démocratiques syriennes de lutte contre les djihadistes n'avait plus de raison d'être. Pourquoi ? Eh bien, en raison de l'émergence d'un État central soutenu par les États-Unis à Damas.
Merci François-Xavier de Calonne pour ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alexandre Ward à la réalisation. Excellente suite de programmes à l'écoute de Radio Orient.